7h24, je me suis dit que ce serait important de faire un peu le point. Ça fait quoi? 5 mois maintenant qu'on vit cette période de pandémie. On voit les résultats qui sont quand même encourageants, mais en même temps, le spectre peut-être d'une deuxième vague avec plus ou moins d'intensité dans les prochaines semaines. J'en parle avec le ministre de la Santé, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Arcan.
D'abord, je voudrais qu'on fasse le point sur l'état des lieux, c'est-à-dire en termes d'équipement, en termes de personnel, en termes de plans, par exemple, pour mieux protéger les centres de soins de longue durée qu'on a échappé au mois de mars. En termes d'équipement, là, le Québec a combien de masques, a combien de blouses? Ça ressemble à quoi?
Bon, premièrement, je veux vous souhaiter un bon retour de vacances, M. Arcan. Hein? Je vous dirais, premièrement, que sur tout ce qui est équipement, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ça a été une des leçons importantes de cette première vague-là. On roule à peu près entre 40 et 60 jours d'équipement sur les principaux, ce qu'on appelle les EPI, là, l'équipement de protection individuelle. Donc, sur ça, on est plus que correct. Maintenant, on s'est ajouté une sûreté additionnelle, c'est que la plupart maintenant de ces équipements-là vont être fabriqués au Québec. Ça, c'est un des enseignements majeurs qu'on a eu. On peut avoir de l'équipement en stock, mais si notre source est extérieure, comme en Chine, puis qu'on n'est pas capable de s'approvisionner lorsque tout le monde en demande, ben l'équipement s'épuisait très rapidement. Alors, on s'est assuré pour les principales pièces d'équipement de protection qu'on a une source, une ou plusieurs sources québécoises.
On me dit que même on a de la difficulté au ministère à avoir un inventaire juste. Tellement d'équipements sont entrés, tellement de commandes ont été exécutées que c'est dur d'avoir un portrait exact.
Écoutez, on a mis des gens de logistique pour s'assurer que c'était pas un enjeu. Alors moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, tout ce qui est la question de l'équipement, je pense que, comme vous dites, on a un problème peut-être de n'avoir peut-être trop, mais j'aime mieux qu'on en ait trop qu'on n'en ait pas assez, puis il s'agira de bien gérer. Puis ça, c'est le deuxième enjeu, de bien gérer la logistique, c'est-à-dire entre les entrepôts et s'assurer qu'ils sont bien distribués dans les différents centres régionaux. Mais ça, pour moi, c'est un enjeu qui est derrière nous.
OK. Les centres de soins de longue durée, est-ce qu'ils sont prêts pour vrai, là?
Ben, écoutez, je dirais que ma job est en jeu. Le premier ministre était très clair que dans le mandat que j'avais, c'était qu'on ne retourne pas dans la situation des CHSLD qu'on connu. Je pense qu'un des enjeux qui est clair, qu'on l'a vu, il y avait un enjeu du côté de la mobilité du personnel. Et ça, pour moi, là, je suis en discussion avec les différents PDG pour trouver comment on va faire pour que... Je pense que la plupart, maintenant, ont compris qu'on ne pouvait pas retourner là. Mais il y a un enjeu d'imputabilité, puis je veux avoir une discussion très, très claire. Et on l'a fait, là, ça fait 3 fois que je participe à des rencontres ou à des discussions. J'ai été sur le terrain et je leur ai expliqué qu'on ne pouvait pas accepter d'avoir de la mobilité dans le personnel qui cause les problèmes qu'on a eus dans la première vague. Alors, on est là-dessus. Madame Savoie, ma sous-ministre, est très consciente de ça et tous les deux, ensemble, on est en train de s'assurer qu'on ne retournera pas dans cette situation-là qui a causé plusieurs décès, okay, malheureusement.
Monsieur Dubé, vous êtes quelqu'un qui arrive du secteur privé ou en tout cas du monde des affaires, là, de façon plus large. Le ministère de la Santé, en tant que tel, là, c'est l'État dans l'État. Et moi, ce qu'on me raconte, là, ce qui se décide à votre niveau, chez vos sous-ministres, quand ça arrive dans les différentes structures, ça retarde, c'est des comités, ça niaise, il n'y a personne qui est responsable. Ah, c'est pas dans ma cour, c'est rendu ailleurs. L'exemple que je peux vous donner, là, ce sont les chirurgies qui ont été annulées pendant la crise, qu'on a voulu reprendre, des transferts, ça a pris des semaines et des semaines. Les fonctionnaires vous regardent en disant « Le ministre peut bien décider ce qu'il veut. Moi, je fais ce que je veux dans ma région. »
Bon, mais je vous parle de deux choses, là. Je vous parle tout à l'heure d'imputabilité. Je vais revenir là-dessus. Vous avez sûrement pris connaissance, là, de ce qu'on a appelé le rapport Montréal. Puis le rapport Montréal a dit qu'on avait énormément de difficultés justement à coordonner entre les différents CIS et les CIUS, mais aussi de s'assurer que les directives passent exactement ce que vous venez de dire. Alors moi, là, je suis sur le terrain, là, c'est pas juste une question d'entreprise privée, c'est une question d'être sur le terrain. Moi, je fais au moins 2 ou 3 établissements par semaine depuis que je suis arrivé. J'ai rencontré plusieurs de ces PDG-là personnellement et je leur demande de dire, écoutez, là, quand vous recevez une directive qui ne fait pas votre affaire, je veux le savoir parce que c'est pas de dire oui, je le fais, puis de ne pas le faire en arrière. On ne peut pas accepter.
Mais ça, est-ce que vous convenez avec moi que c'est ça que plusieurs font? Ils font semblant de vous dire oui, puis ils le font pas.
Bien, la réponse à ça, c'est oui, c'est arrivé. Et ça n'arrivera plus parce que quand on dit qu'on veut que nos PDG soient imputables, M. Arcan, c'est ça que ça veut dire. Si on accepte ce poste-là, on accepte cet environnement-là, alors il faut être capable de livrer la marchandise. J'en ai rencontré plusieurs. On a eu certaines discussions. On a eu des cas. Puis je vais vous donner un cas concret, là. On est à Québec il y a 3 semaines, puis on a un problème avec un CHSLD privé. Exactement ce qui est arrivé là durant la crise. Et moi, j'avais pas les réponses à mes questions. Bon, on a envoyé un inspecteur indépendant. Ça a pris 24 heures.
Est-ce quelqu'un qui a été suspendu?
Bien, on attend le rapport. Puis quand on va avoir le rapport, on va prendre la décision. Mais on n'a pas uniquement envoyé nos inspecteurs internes. On a envoyé quelqu'un de l'externe qui fait le rapport, qui regarde qu'est-ce qui est arrivé aux 3 pignons. Puis je vous dis, c'est ça qu'on va faire. C'est vraiment pour être capable d'avoir c'est la clé de la deuxième vague, c'est d'être capable que les gens agissent premièrement rapidement, qu'ils soient agiles, mais qu'on s'entende sur les directives. Et je vous donne l'exemple, M. Arcan. Tout à l'heure, je vous ai parlé de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette mobilité-là du personnel. C'est pour ça que je leur ai demandé de me donner des solutions, parce que si on me dit oui, ils ne bougeront pas, et qu'en arrière, on fait de la mobilité parce qu'on n'a pas le choix, bien, ça ne peut pas fonctionner. Et moi, je n'accepterai pas ça. Et j'en ai discuté avec eux, puis on est en train de trouver des...
Oui, mais là, ils vont vous dire, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous voulez, on n'avait pas le choix, il y en a qui ne sont pas présentés, qui étaient malades, alors on est obligé de prendre des gens qui étaient ailleurs, qui ont fait 2-3 établissements, c'est pas de notre faute. Ils vont vous sortir ça comme argument, là?
Monsieur Arcan, je vais être clair, là. Si on a été capable de changer un ministre, un sous-ministre, on est capable de changer un PDG, si c'est là le problème.
OK. Je voudrais vous parler des patients non-COVID, c'est-à-dire les gens qui attendent pour des chirurgies. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce matin, il y a combien de Québécois qui ont vu leur opération reportée? Il y a toujours des listes d'attente, là, mais ça a pris de l'ampleur. Il y a combien de gens qui attendent pour être opérés au Québec?
La liste d'attente a monté jusqu'à 80 000 personnes. Alors, c'est énorme. C'est un choix qui
est... Vous êtes sûr que c'est pas plus que ça?
Ah, ben, c'est peut-être plus que ça. Ce que je vous dis, c'est que c'est au moins 80 000 personnes.
On parle de 140 000.
Ouais. Alors, moi, je vous dis que ce que j'ai comme chiffre en ce moment, c'est 80 000 personnes. Ce qui est le défi en ce moment, c'est de savoir il y en a combien qui ont décidé d'attendre et de ne pas le redemander. Ça, c'est un enjeu. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est le minimiser, le délestage. Et encore une fois, on a délesté, puis ça, c'est un enjeu. C'est facile à dire après qu'on n'aurait pas dû agir comme ça, mais on a délesté dans certaines régions qui n'ont pas eu vraiment de cas COVID. Alors, c'est pour ça qu'on peut peut-être récupérer le délestage qui a été fait, mais il faut le faire, mais on a un enjeu avec ça, puis on est en train de l'adresser.
Serez-vous capable, s'il y a une deuxième vague, de protéger ces patients-là? Autrement dit, faire en sorte qu'il n'y ait pas, comme il y a eu, là, du délestage. Est-ce que les hôpitaux à Montréal, par exemple, je ne sais pas, un hôpital dédié va être COVID, puis l'autre va pouvoir faire des opérations, que les médecins qu'on a mis sur la glace vont pouvoir travailler, donc les patients vont être opérés. C'est-tu pensable, ça?
Oui, c'est pensable. C'est sûr qu'on a eu des hôpitaux, un peu comme votre question, mais il y a deux enjeux. Il y a eu des hôpitaux, puis je pense au Jewish qui a été un des premiers à être COVID. Puis ça a été une bonne approche, là, c'est de s'assurer qu'il y avait une approche très, très... où les mesures de protection là, étaient là. Puis je pense que ça s'est fait. Mais il faut aussi aller recourir à des cliniques privées. Ce qu'on est en train de regarder pour accélérer ou rattraper le carnet de délestage qu'il y a eu. On est en train de recourir à des cliniques privées. Il y a des ententes qui sont en train d'être finalisées et ça va être une solution pour rattraper tout le temps perdu là-dessus.
Mais voyez, ça, c'est un exemple. Mme McCann, qui était au ministère avant vous, avait annoncé ça au mois de mai. On est au mois d'août, puis vous êtes en train de me dire que les ententes sont en train de se faire. Voyez comment la machine est capable de vous jouer dans le dos?
Bien, écoutez, on règle plusieurs problèmes en même temps. En ce moment, je peux vous dire que sur les cliniques privées, moi, je trouve qu'on est assez avancé. Il reste des choses à faire, mais on va le régler, celui-là aussi.
OK. J'ai quelques questions rapides pour conclure. Les opposants aux masques, ceux qui manifestent, en France, entre aujourd'hui un règlement, puis en France, on a choisi d'imposer des amendes à ceux qui ne portent pas le masque. Est-ce que vous maintenez votre stratégie de dire que ce sont les commerçants qui doivent s'assurer et ultimement payer des amendes, ou si vous pensez peut-être que c'est le temps de, je dirais, punir les contrevenants directement?
Écoutez, la très grande, je le répète, là, la très grande majorité des Québécois ont changé leur habitude, puis ils le portent, le masque. Vous le voyez, là, on le sent. Bon. Est-ce qu'on doit faire ces pénalités-là pour une si petite infimité de personnes qui ont décidé de ne pas suivre les directives? Jusqu'à maintenant, on a pris la décision de ne pas le faire. Mais moi, je ne suis pas fermé à ça. Je l'ai parlé beaucoup avec Mme Guilbeault, avec le premier ministre. Jusqu'à maintenant, on n'a pas senti le besoin de le faire, mais au besoin, on va le faire parce que, je le répète, on n'acceptera pas que des gens, parce qu'ils sont contre, vont mettre la santé de d'autres personnes en jeu.
Mais le gouvernement, M. Dubé, est un peu responsable. C'est-à-dire, le message contradictoire, là, je comprends qu'on voulait faire ça de façon graduelle, mais quand le docteur Arruda dit ouais, « ben, moi, le masque, je suis pas contre, mais je suis pas pour, puis c'est mieux de se laver les mains », t'envoies un drôle de message à la population quand après ça, tu décides que c'est bien important puis il faut que tu l'imposes.
Oui, mais M. Arcan, écoutez, là, je vais vous dire clairement, quand on était en situation de confinement, c'est sûr que le masque n'avait pas la même importance. Mais il faut bien se rappeler de tout ce qui a évolué entre le temps où on a mis tout le monde en confinement et aujourd'hui où on a eu les vacances de la construction, on a eu tout le déconfinement qui a quand même très bien été. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est les mêmes conditions qu'on avait il y a 3-4 mois? La réponse est non. Il était très clair qu'on devait passer par le port du masque. On a vu comment c'est un succès dans le transport collectif. On le voit comment c'est un succès dans les restaurants.
Non, je vous dis, je suis d'accord avec vous qu'actuellement, c'est largement suivi. Puis mais...
Les Québécois ont suivi. Les Québécois ont été là. Maintenant, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord de pas donner de pénalité? Moi, je l'ai dit, on l'a dit clairement il y a 2 semaines. Si on a besoin d'agir, on va le faire. On surveille, vous le savez, on surveille les résultats de très près. Jusqu'à maintenant, on a stabilisé les cas aux alentours de 100 à 150 cas par jour. C'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que ce qu'on a eu. Alors, on est en train de regarder. Et si on a besoin de mettre ces pénalités-là, comme d'autres pays ont décidé de le faire, bien, on le fera.
OK. Je comprends que vous ne voulez pas, comme on dit, devancer le point de presse de cet après-midi. Mais pour ce qui est des écoles, est-ce que, au moins, vous pouvez me dire ce matin, pour le primaire et le secondaire, si l'objectif, c'est ça qui va arriver pour les parents, c'est l'école sur place, physique?
Oui, oui, c'est sûr que je vais laisser mon collègue Jean-François Robert, je vous expliquer tout ça aujourd'hui, mais c'est sûr que ce qu'on priorise, c'est l'école sur place. Il faut que les enfants retournent à l'école. C'est ce qu'ils nous demandent, c'est ce que les parents veulent. Notre défi à nous, et on va le faire, on va le relever, c'est de leur donner un environnement sécuritaire. Et entre ce qui a été publié au mois de juin, qui était la première version du guide, il y a eu des changements depuis ce temps-là, notamment au niveau du port du masque. Alors, ce que M. Robert, je vais expliquer, là, c'est les ajustements que l'on fait au guide là, qui a été publié le 16 juin.
OK. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au collégial, on sait qu'il y a déjà des collèges, c'est une semaine sur deux. À l'université, c'est du virtuel pratiquement à 100%. Donc, ça veut dire que pour le collégial et le niveau universitaire, là, c'est bien différent.
Ben écoutez, je vais laisser... C'est Mme McCann qui a pris cette balle-là. Elle va faire aussi son point dans les prochains jours au niveau public. Laissons à M. Robert, je pense que l'enjeu en ce moment, c'est de bien répondre aux parents pour le primaire et le secondaire. Il y a beaucoup de travail là, qui s'est fait dans les dernières semaines. Puis M. Robert, je vais répondre à ça ce midi.
Vous nous promettez que ça va être clair, là, qu'on va tout comprendre, puis qu'il n'y aura pas de zone grise.
Il n'y aura pas de zone grise, puis on va avoir tout ce qu'il faut. On va avoir le personnel, on va avoir ce qu'il faut, avoir des consignes claires, puis on va rassurer autant les parents que le personnel pour le faire.
Et pensez-vous, exemple, là, que un petit gars de 12 ans, une petite fille de 13 ans devrait porter le masque à l'intérieur de l'école?
On va tout répondre à ça ce midi, M. Okay. Arcand. Je vois que vous êtes revenu en forme, c'est très bien.
C'est très bien, monsieur reposé. Ben, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Christian Dubé est le ministre de la Santé et des Services sociaux.